Ce que vous allez entendre est l'écho des fictions que vous avez écoutées précédemment. Certains propos peuvent choquer.
Bah, tu vois, genre, bon, j'ai quitté un peu l'univers populaire, hein, on va pas se mentir, et de ZEP pour collège de ZEP et école, machin, école élémentaire, voilà. Et en gros, quand j'ai quitté, je vais dans un lycée dans le 8e arrondissement de Paris. Donc, c'est le 8e arrondissement, il y a des petits quartiers d'affaires, etc. Donc, c'est très, très huppé, très cher. Et c'était à Saint-Lazare et près de Villiers. C'était sur deux sites. Et en gros, en fait, quand je suis allée là-bas, je me sentais trop bizarre parce que franchement, c'est la première fois de ma vie déjà que je rencontrais deux personnes qui étaient d'un autre milieu social. Enfin, j'en ai déjà rencontré. Mais mon meilleur ami, voilà. Mais en gros, ouais, c'est la première fois que je rencontrais des personnes qui étaient vraiment dans un autre milieu social et qui le faisaient un peu ressentir, tu vois. Ça, c'est les clichés du lycée, hein, les meufs populaires, les mecs, machin. C'était vraiment ça, un petit peu, bon, peut-être moins américanisé, mais c'était un peu dans cette idée-là. Et je me suis, en fait, à un moment, j'étais en cours. Donc, en fait, les gens savaient pas que je venais forcément de Barbès parce que j'en parlais pas, c'était pas leur vie, quoi. Et je les aimais pas forcément, en fait, parce qu'ils étaient un peu trop dans leur cercle, qu'est-ce que c'était déjà tous d'avant. Enfin, ça me saoulait un peu, ça me cassait les couilles un petit peu. Et à un moment, j'étais en cours de patrimoine avec ma prof. Et en gros, en fait, je présente le quartier, parce qu'on nous a demandé de présenter le quartier où on habitait. Du coup, moi, je dis, oui, j'habite à Barbès, cour de la Goutte d'Or, etc. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que la prof aussi habitait à Barbès, près de la bibliothèque Fleury. Et en fait, elle connaissait du coup bien le quartier. Et en fait, elle me dit, ouais, tu sais, en fait, je commence à me dire que c'est un quartier un peu populaire. Et là, je sais pas pourquoi, en fait, d'un coup, je sais plus ce qui s'était passé, mais elle me commençait à me dire, ouais, mais tu sais que tu habites dans un quartier pauvre. Et en fait, je savais au fond de moi, tu vois, mais je l'avais jamais verbalisé comme ça, tu vois, parce qu'on se dit pas dans le quartier, ouais, on est dans un quartier pauvre. On se dit, on est à Barbès, c'est normal, tu vois. Même si ça veut dire en vrai que c'est un quartier un peu, un petit peu défavorisé, etc. Et en gros, en fait, je lui dis, non, madame, c'est pas un quartier pauvre. En fait, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle m'insultait en me traitant de pauvre. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est bizarre. Bon, j'avais 14-15 ans, donc j'étais un peu con.
L'avenir, je l'espère et je souhaite de tout cœur qu'il soit radieux, mais je le vois pas, hein, Dieu. Voilà. Parce que là, parce que là, déjà, si juste en deux secondes on se concentre sur le Covid, on a dû, et comment c'est géré, j'ai du mal à voir, là, comment, dans le futur. Enfin, ça met beaucoup de tension, déjà, entre nous, entre les humains. Dans la société, il y a énormément de tension. Qui, même après cette crise-là, je pense qu'elles vont rester, quoi. Il y a quelque chose qui va rester de cette période. Donc, déjà, entre nous, les rapports sociaux et tout, on est déjà sur une corde très fine, mais elle va rester fine, quoi. C'est comme ça que je le ressens. Et puis après, bah, si tu élargis, évidemment, et que tu penses à l'avenir, moi, je pense directement à l'écologie. Il y a des choses qui se passent, des catastrophes qui sont en train d'être, qui sont déjà, le train est déjà lancé, quoi, et qui risquent d'arriver, qui vont se produire, en fait, c'est même sûr. Par exemple, je pense aux glaciers, là, par exemple, tout de suite, qui fondent. Quoi qu'il arrive, là, même si on arrêtait tout maintenant, on arrêtait de manger de la viande, même si on arrêtait de conduire, prendre l'avion, tout plein de choses, y a des choses qui se passeraient, à savoir la fonte des glaciers. Donc une montée des eaux. Cette montée des eaux-là, elle va obligatoirement conduire à des flux migratoires humains conséquents. Et que du coup, quand ça va arriver, parce que ça risque probablement d'arriver, qu'on va accueillir tous ces gens qui viendront de la mer. Voilà. Mais c'est toujours... Donc on le souhaite. On pense à ça, tu vois. Enfin, moi, je pense... Je fais que me dire, allez, on va être soudés. Mais c'est toujours difficile, tu vois, d'y croire quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui.
Les enfants, alors c'est très divers. Voilà, on a ici une école comme ici, on a toutes sortes de familles. Hein. On a des catégories socio-professionnelles élevées. On a des gens qui vivent en logement social, mais bon, voilà, qui vivent plutôt bien, enfin normalement. Et puis voilà, on a aussi des enfants qui vivent en centre d'hébergement d'urgence, qui vivent en centre pour demandeurs d'asile aussi. Voilà, donc on a des enfants avec vraiment des parcours traumatiques, quoi. Hein. On s'imagine un enfant de 3 ans, de 4 ans. Pour certains, il y a eu des parcours migratoires. On a le cas d'une enfant qui a eu un parcours migratoire de 2 ans, quand même, voilà, avant d'être un peu stabilisée quelque part. Donc voilà, donc autour de tout ça, tous ces enfants-là, la plupart, ils ne s'en sortent pas sans mal. Hein. Donc il y a des traumatismes qui sont plus ou moins importants et qui ont des impacts énormes sur les apprentissages, quoi. Hein. Voilà, est-ce que les enfants il faut que les enfants soient disponibles, on va dire, pour les apprentissages. Hein. Donc, c'est le cas des enfants qui dorment correctement, qui mangent correctement, qui sont entourés, comme il faut. Et puis, à côté de ça, voilà, on a des enfants qui n'ont pas tout ça.
En fait, nous, je dis nous parce qu'on était un père et une mère. Et qu'on était très en phase, ce qui n'est pas toujours le cas dans les couples, mais on était très en phase sur ce qu'on voulait pour nos enfants, comme éducation. Ils vont dans les écoles du quartier, dans les écoles du secteur. À l'époque, l'école maternelle, il y avait des Algéco rue Léon, qui sont maintenant l'Institut des Cultures d'Islam, des Algéco rue Budin, à la place de la crèche, et un projet d'école rue Émile Duployé, qui était en cours de construction. Donc, on inscrivait notre enfant dans une école qui était en deux parties, dans le quartier, dans des Algéco, qui étaient plutôt chouettes quand tu rentrais à l'intérieur, mais enfin bon, c'était quand même du provisoire, c'est toujours d'ailleurs du provisoire au Léon. Et la directrice qui s'appelle Mado nous avait dit, tout le monde va vous dire, ne mettez pas vos enfants dans le quartier, dans les écoles du quartier, moi je vais vous expliquer ce qu'on fait, etc. Il n'y a pas eu de discussion pour nous, c'était ok. Ça nous intéressait de mettre nos enfants dans le chaudron du quartier, mais dans le projet éducatif que sont ces écoles-là, qui sont des écoles en REP plus, donc avec des enseignants qui en veulent par rapport à ce qu'ils ont à transmettre.
Mais en vrai, quand elle m'a dit ça, déjà c'était devant mes camarades qui eux avaient des préjugés, déjà ils avaient des préjugés sur tout et n'importe quoi, qui ne connaissaient pas du tout le quartier, et voilà. Et en fait, à chaque fois qu'ils posaient des questions, c'était un peu en mode, mais du coup, comment ça se fait que t'es là? Parce qu'en fait, tu viens d'un truc prioritaire, d'une ZEP, et en fait, il voyait très bien que j'étais hyper intelligente, on ne va pas se mentir, tu vois. Et en gros, il voyait très bien que j'avais quelque chose dans la tête, que j'étais pas juste une meuf qui était là parce que discrimination positive ou je sais pas quoi. J'étais vraiment là parce que j'avais travaillé, tu vois. Et il me posait un peu des questions comme ça, donc il y avait déjà c'est mes camarades un petit peu cons. La prof qui me fait une réflexion en mode, tu viens d'un quartier pauvre. Et j'étais en mode, mais madame, pourquoi vous dites ça? Et j'étais en train de me justifier, alors que c'est pas une insulte, c'est vrai, c'est une situation sociale. Mais je sais pas pourquoi, j'ai tellement mal pris.
Il y a un côté, dans des écoles comme ça, on se dit, quand même, ils grandissent ensemble, ces enfants-là. Ils sont tout jeunes, ils grandissent ensemble. Alors, quoi qu'il se passe en dehors de l'école, pour eux, j'espère que ça laissera quand même des traces du vivre ensemble. Et et on choisit... dans le lot, on va choisir des amis, on va avoir des affinités, ça n'aura rien à voir avec, avec l'origine sociale, etc. quoi. Après, les enfants comprennent très bien, par exemple, quand je dis que pour certains enfants, on peut pas attendre d'eux la même chose que les autres, ça veut dire, par exemple, tout simplement, hein, les enseignantes, elles vont réunir les enfants tous sur les bancs, pour des petits moments collectifs. Certains enfants sont pas capables de suivre ces moments-là. Et les autres enfants le comprennent très bien, peuvent très bien le comprendre. Et c'est justement, je trouve intéressant, dès qu'ils soient petits, ils entendent que oui, on n'est pas tous pareils et qu'on peut accepter des traitements un peu différents pour certains, pour certaines.
Et de n'avoir aucun a priori sur les autres enfants. Et on a détesté profondément, il y a des fêtes de blancs où on s'est barré. Tous les gens, un peu comme nous socialement, qui ont toujours eu des stratégies d'évitement pour leurs enfants, et donc qui ont menti à leurs enfants, qui ont menti à la société en donnant des fausses adresses, qui ont menti à leurs enfants, qui nous ont menti en disant qu'ils déménageaient alors qu'on voyait qu'ils déménageaient pas, mais qui partaient à 7h30 pour emmener leur gamin, je sais pas où. Et ça, c'est pour moi une profonde détestation de gens qui sont de mon bord social. J'ai une profonde détestation pour tous ces gens-là. Je trouve ça vraiment répugnant. Je trouve répugnant l'attitude des élus qui ont toujours facilité les changements d'école, etc. pour les Blancs.
Donc voilà, l'avenir... C'est quand on est jeune et quand on a 22 ans, y en a qui en effet s'y intéressent pas encore, voilà. Mais quand on pense à ça, en tout cas quand on y réfléchit, on a du mal à se dire que dans 50 ans on va être heureux, tu vois. J'ai du mal à me dire que dans 30 ans, quand j'aurai 50 ans, j'aurai ma maison avec une femme et des enfants qui courent dans le jardin. Ça, c'est très compliqué à imaginer. Moi, c'est des choses sur lesquelles j'ai pensé vite. C'est par exemple le nombre de gens qui mouraient par an de la pollution de l'air en France et depuis dans le monde. Parce que dans le monde, en 2019, par exemple, il y a plus de 8 millions de personnes sur Terre qui ont été recensées mortes, en fait, à cause de juste la pollution de l'air. Et donc tu deviens un peu parano, évidemment. Et tu te dis, mais en fait, là, ils cherchent à nous contrôler, qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait. Tu vois, on se dit, ils vont nous contrôler, en fait.
Alors, mon métier, c'est pompier. Non, mais c'est... donc déjà, j'ai tous ces dispositifs à faire vivre. Hein, donc, ça veut dire qu'il y a pas mal de relations, du coup, en éducation prioritaire, pas mal de relations avec le monde associatif, avec la politique de la ville, etc. On a beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup ça. Et puis après, au quotidien, tout simplement, c'est aussi être là, en plus des enseignants, pour s'occuper, pour être présente en classe et pour m'occuper de tel et tel enfant.
En fait, le tout, c'est que ma mère nous a élevés, nous trois, comme si on était des triplés, parce qu'on est nés... Enfin, j'ai ma soeur jumelle et ma grande soeur est très rapprochée de nous. Elle a 21 ans, on va avoir 20 ans, du coup. C'était un peu pénible pour elle parce que je sais qu'elle est passée par plusieurs foyers, tu sais, d'hébergement pour jeune mère en fait. Et du coup, d'abord, on était à Gambetta, il me semble, avant de déménager à Barbès. Et on a eu un appartement assez grand, on va dire, parce qu'on était quand même trois enfants. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu as une maman qui est vraiment, qui n'est pas dans le modèle des mamans que tu croises dans le quartier, dans le sens où elle est pas mariée, etc., elle a pas de mari, enfin, on a pas de père, etc., nous trois d'ailleurs. Genre, voilà, on était un peu en mode, quand j'allais à l'école en élémentaire, on me demandait, ouais, ton père il est où? Moi je te demande, bah j'ai pas de père en fait. Et il me disait, ah ouais, comment ça se fait ta mère? Qu'est-ce qu'elle fait machin? Je leur expliquais, je disais, bah voilà, ça arrive, hein. Ma mère c'est mon père, ma mère c'est ma mère aussi, pas de problème. Et voilà, c'était un peu, les gens nous prenaient un petit peu différemment parce qu'on avait ce modèle-là un peu différent, vu que c'est tous des familles un peu nombreuses avec papa, maman à la maison. Et honnêtement, je suis très très contente d'avoir été élevée par elle en fait. Parce que je sais que si j'aurais été élevée par quelqu'un d'autre, ou même avec deux parents, etc., je pense pas qu'on aurait eu la même éducation et la même ouverture d'esprit sur les choses. Et franchement, je le remercie tous les jours d'avoir été ce tel modèle, en fait. C'est vraiment pas facile pour une femme toute seule, en plus, à Barbès.
Les Invincibles.